Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le troisième podcast du module DH consacré à la structure des appareils digestifs et urinaires. Sur le slide numéro 2, on voit l'appareil digestif. Ceci se compose du tube digestif et des organes accessoires. Le tube digestif est formé de la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Les organes accessoires sont les dents, la langue, les glandes salivaires, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire et le système des voies biliaires. À droite, on voit les fonctions principales de l'appareil digestif. Celles-ci sont l'ingestion, la digestion mécanique et chimique, la propulsion, l'absorption et la défécation. Le slide numéro 3 nous montre la bouche. On y voit le vestibule et la cavité buccale proprement dite. Le vestibule est l'espace délimité par les lèvres et les joues à l'extérieur des dents et des gencives. La cavité buccale proprement dite est la région située à l'intérieur des dents et des gencives. Le toit de la cavité buccale est formé par le palais. Le plancher de la cavité buccale est occupé par la langue. Le slide numéro 4 nous montre les glandes salivaires. On y voit les glandes parotides, les glandes submandibulaires et les glandes sublinguales. Le slide numéro 5 nous montre les dents. Notez que la dentation temporaire chez l'enfant est composée de 20 dents et la dentation permanente chez l'adulte de 32 dents. Sur le slide numéro 6, on voit une coupe sagittale de la bouche et du pharynx. Le palais, qui sépare la cavité buccale de la cavité nasale, est formé de deux parties. Le palais dur et le palais mou. Le palais dur est osseux et se trouve en avant. Le palais mou est situé à l'arrière et on trouve l'alouette ou l'ovule à son extrémité libre. Postérieurement, on voit le pharynx. Le pharynx est divisé en trois parties: nasopharynx, oropharynx et laryngopharynx. La partie postérieure du pharynx conduit à l'œsophage. Avec le slide numéro 7, on commence notre étude de la cavité abdominale. Le tronc est divisé par le diaphragme en deux cavités, la cavité thoracique et la cavité abdominopelvienne. L'entrée du bassin permet de diviser la cavité abdominopelvienne en cavité abdominale et la cavité pelvienne. La cavité abdominale possède une paroi antérieure, une paroi postérieure et deux parois latérales appelées les flancs. L'image à droite nous montre la division de la paroi antérieure en quatre quadrants. Avec le slide numéro 8, on commence notre étude des revêtements péritonéaux. Le péritoine est une membrane séreuse qui tapisse la cavité abdominale et certains des organes qui y sont logés. Comme on le voit sur ces images, le péritoine divise la cavité abdominale en une cavité péritonéale et une cavité rétropéritonéale. Le slide numéro 9 nous montre les organes se trouvant dans la cavité rétropéritonéale. Ces organes se trouvent entre le péritoine et la paroi postérieure de l'abdomen. Les organes rétropéritonéaux sont l'œsophage, le duodénum excepté son ampoule, les colons ascendants et descendants, le rectum, l'aorte et la veine cave inférieure, les nerfs, les reins et les urtères, le pancréas excepté sa queue. Le slide numéro 10 nous montre l'importance de la connaissance d'anatomie en clinique. Comme on le voit sur le slide numéro 11, le péritoine est formé de deux couches, le péritoine pariétal et le péritoine viscéral. Le péritoine pariétal tapisse la paroi abdominale. Le péritoine viscéral couvre les organes. Un organe tapissé complètement par le péritoine viscéral est dit intrapéritonéal. La cavité péritonéale est ainsi divisée en deux sacs péritonéaux, le grand sac péritonéal et le petit sac péritonéal ou la bourse omentale. Notez bien aussi la présence des replis péritonéaux en forme de omentome, mésentère ou ligament. Les slides numéro 12 et 13 nous montrent les différents replis péritonéaux. On y voit le grand et le petit omentome attachés à l'estomac et les mésentères attachés à la paroi abdominale. Sur le slide numéro 14, on voit l'œsophage. L'œsophage est un conduit musculaire qui fait communiquer le pharynx en haut et l'estomac en bas. Sa longueur est d'environ 25 cm. L'œsophage possède trois parties, une partie cervicale, une partie thoracique et une partie abdominale. Le slide numéro 15 nous montre l'estomac. L'estomac possède deux orifices, l'orifice du cardia à sa jonction œsogastrique et l'orifice du pylore où se trouve le sphincter pylorique. Il possède aussi deux courbures, la petite courbure sur son bord droit et la grande courbure sur le bord gauche. On divise l'estomac en quatre parties. La partie cardiale, située au-dessous de l'orifice du cardia, le fondus, qui est la partie supérieure contre le diaphragme, une grande partie médiane appelée le corps, et une partie inférieure qui est la partie pylorique. Sur le slide numéro 16, on voit l'intestin grêle. L'intestin grêle est formé de trois parties, le duodénum, le jejunum et l'ilium. Le duodénum est la partie la plus courte et il est situé en grande partie dans l'espace rétropéritonéal. Le jejunum et l'ilium sont des parties assez mobiles qui sont disposées en une série de replis appelés les anses intestinales. Le jejunum est situé plutôt dans la partie supérieure de la cavité abdominale et l'ileum dans sa partie inférieure. Comme on le voit en bas à gauche, l'ileum rejoint le gros intestin au niveau de l'angle iléo-cæcal. Le slide numéro 17 nous montre le duodénum. Le duodénum forme un C autour de la tête du pancréas. Le duodénum possède quatre parties. La première partie, ou la partie supérieure, la deuxième partie, ou la partie descendante, la troisième partie, ou la partie horizontale, et la quatrième partie, ou la partie ascendante. Sa deuxième partie, ou la partie descendante, reçoit l'entrée commune du conduit pancréatique et du canal cholédoque au niveau de la papille duodénale majeure. Le slide numéro 18 vous montre l'importance de la connaissance d'anatomie en clinique. Le slide numéro 19 nous montre le gros intestin. Le gros intestin commence à l'angle iléo-cæcal et forme un cadre colique qui entoure les anses intestinales. Il est formé de six parties. Le cæcum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, le rectum et le canal anal. Il possède aussi deux angles coliques, l'angle colique droit ou la courbure hépatique et l'angle colique gauche ou la courbure splénique. Notez bien aussi la présence de l'appendice vermiforme au niveau du cæcum. Le slide numéro 20 nous montre le pancréas. Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine située dans la cavité rétropéritonéale. Il possède quatre parties, la tête, le col, le corps et la queue. Les enzymes pancréatiques sont libérées dans le conduit pancréatique principal vers la deuxième partie du duodénum. Sur le slide numéro 21, on voit le foie. Comme on le voit sur cette image, le ligament falciforme, qui est un repli péritonéal, semble diviser le foie en deux lobes, le lobe droit, qui est le plus gros, et le lobe gauche. Sur le bord inférieur du lobe droit, on voit la vésicule biliaire. Le slide numéro 21 nous montre les voies biliaires. La bile quitte le foie par les canaux hépatiques droite et gauche. Ces canaux hépatiques s'unissent pour former le conduit hépatique commun. Le conduit hépatique commun reçoit le canal cystique venant de la vésicule biliaire et devient le canal cholédoque. Le canal cholédoque se rejoint au conduit pancréatique principal pour se terminer au niveau de la deuxième partie du duodénum. Sur le slide numéro 23, on voit la vascularisation artérielle de l'appareil digestif au niveau de la cavité abdominale. Cette vascularisation est assurée par les trois branches impaires de l'aorte abdominale qui sont le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Les slides numéro 24 et 25 nous montrent le drainage veineux de cette région effectué par le système porte. La veine porte se trouve postérieure au col du pancréas et se forme par l'union des veines spléniques et mésentériques supérieures. La veine mésentérique inférieure se draine à son tour dans la veine splénique. Avec le slide numéro 26, on commence notre étude de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire comporte deux stations d'épuration, les reins, les canaux de transport, deux uretères et un urètre, et un réservoir de stockage de l'urine, la vessie. Les reins et les uretères sont situés dans l'espace rétropéritonéal sur les muscles de la paroi abdominale postérieure. Les reins ont la forme de fève. Leur bord latéral est convexe et leur bord médial concave. Au niveau du centre du bord médial, on voit le il rénal. Chaque il contient la veine rénale, l'artère rénale et le bassinet. Comme on le voit sur le slide 27, le rein droit se trouve à un niveau vertébral plus bas que le rein gauche. Ceci est en raison de la présence du foie du côté droit. Le slide numéro 28 nous montre l'anatomie interne du rein. Le parenchyme rénal est formé de deux parties, le cortex et la médulla. La médulla, plus foncée et plus centrale, s'organise en structure triangulaire appelée les pyramides. Les apex des pyramides s'appellent les papilles rénales. Le cortex est plus clair et plus périphérique. Entre les pyramides, on trouve les prolongements du cortex, appelés les colonnes rénales. Du parenchyme, l'urine va se verser dans les voies excrétrices. Elle comporte les calices mineurs, les calices majeurs, le bassinet ou le pelvis rénal et l'urtère. Le slide numéro 29 nous montre la cavité pelvienne féminine en coupe sagittale. On y voit la vessie. La vessie est un organe pelvien musculaire situé derrière le pubis et elle est le réservoir de l'urine. Notez la disposition anatomique de la vessie, de l'utérus et du rectum. Inférieurement derrière le pubis, accolé à la paroi antérieure du vagin, on voit l'urètre féminin. Sur le slide numéro 30, on voit la cavité pelvienne masculine en coupe sagittale. Notez bien le rapport anatomique entre la vessie, la prostate et le rectum. Comme on le voit sur cette image, l'urètre masculin est beaucoup plus long que l'urètre féminin. L'urètre masculin est composé de trois parties. L'urètre prostatique, l'urètre membraneux et l'urètre spongieux. Ceci termine notre cours sur l'aperçu des appareils digestifs et urinaires.